Alors bonsoir à tous, à toutes. Une grande joie d'être avec vous à nouveau ce soir. On passe un petit peu dans le sec, hein. Pas de chant, pas de louange. On embarque immédiatement dans la parole de Dieu, mais c'est bien. Je voudrais, avant de lire même un passage des Écritures, faire un court résumé, révision d'hier, juste quelques points essentiels. Donc pour ceux qui ont été présents, c'est un petit rappel, et ceux qui n'ont pas été présents, ça vous donnera une idée de ce qui a été dit hier. L'Apocalypse est une révélation que le Seigneur Jésus a accordée à Jean. Il la tient lui-même de Dieu, donc la source ultime de cette révélation est Dieu, qui l'a communiqué à Jésus sous le mode du don. Et c'est cette relation éternelle, si vous voulez, qui est traduite par le Verbe, qui lui-même exprime l'amour éternel qu'il y a entre le Père et le Fils. C'est le même verbe plutôt qui est utilisé en Jean 17, quand le Seigneur parle des paroles de la gloire qu'il avait auprès du Père, ou qu'il a reçues du Père, ou que le Père lui a données. Et finalement, Jésus la transmet à Jean par l'intermédiaire d'un ange. Ça n'est pas, si vous voulez, le caractère matériel angélique qui est important, c'est plutôt que c'est sous le mode apocalyptique ou symbolique. La différence de l'Apocalypse par rapport aux autres livres du Nouveau Testament est dans la forme, n'est pas dans le contenu. Et dans sa forme, donc, elle relève de ce genre apocalyptique, qui est un genre très présent dans la littérature juive intertestamentaire. C'est tout à fait normal. Le Nouveau Testament est héritier de la littérature juive de l'Ancien Testament et la littérature juive intertestamentaire. Et donc, que nous ayons un genre littéraire représenté dans le judaïsme, et tout ce qu'il y a de plus normal. Et ce livre, si vous voulez, n'est pas simplement une apocalypse, si on doit résumer, les vérités à la fois transcendantes, surnaturelles et éternelles sont révélées par Dieu, et pour les révéler, il faut faire appel à des symboles et à des images. Et c'est pour cela que l'Apocalypse, plus que tout autre livre, et peut-être plus que tous les livres du Nouveau Testament mis ensemble, regorge de symboles et d'images, et il faut passer par leur interprétation avec l'aide que Jean lui-même nous apporte. C'est aussi une prophétie. Jean est un prophète, il est possible que ce soit l'apôtre, mais dans l'Apocalypse, il ne se présente pas comme un apôtre. Il ne se présente pas non plus comme un ancien, ce qu'il fait par exemple dans les Épîtres, mais il se présente comme un prophète, et le livre qu'il écrit est une prophétie. Pourquoi ? Parce qu'il veut se situer en continuité par rapport aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Et il le montre très très clairement en saturant son livre de référence à l'Ancien Testament. L'Apocalypse est le livre qui fait le plus allusion, quasi-citation à l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas prendre 2-3 versets d'affilée sans qu'il y ait soit une référence très très claire pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament, soit une allusion tout aussi claire si on travaille le texte un petit peu. Et pourtant, il n'y a pas une seule citation explicite. Jamais Jean ne dit « ainsi qu'il est écrit » ou « Dieu a parlé » ou « le Saint-Esprit a dit » ce que nous retrouvons dans les autres livres du Nouveau Testament. Cela s'explique par le fait qu'il, se reconnaît comme appartenant à la confrérie des prophètes. Et donc, il se met plutôt en situation de continuité, et il veut montrer l'accomplissement de leurs prophéties. Ça, c'est la nouveauté de Jean par rapport à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament contempler des réalités qui n'étaient pas encore advenues. Jean parle de choses dont il a fait l'expérience. Et il parle de la personne du Messie, pas comme au futur, pour ce qui est de sa première venue et de son identité, mais comme quelque chose qui relève du passé. Et donc, il sait très bien comment ces prophéties de l'Ancien Testament, d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, de Zacharie, ces quatre de Daniel, de certains des psaumes, donc ces livres sont très représentés dans l'Apocalypse, comment ces différents passages des écrits de l'Ancienne Alliance ont été accomplis dans la personne du Messie. Et pour cela, on dit que sa prophétie, la prophétie de Jean, est une prophétie de l'accomplissement eschatologique, et pas simplement, si vous voulez, qui regarde le futur, qui regarde l'accomplissement convenant au futur. Mais troisièmement, et on ne note pas suffisamment cette dernière caractéristique du livre, c'est une lettre. Souvent, le caractère épistolaire du livre est caché, parce qu'on appelle les sept messages des chapitres 2 et 3 les lettres de l'Apocalypse. Puisque le Seigneur dit « écrit à l'Église qui est à Éphèse », écrit à l'Église, plutôt à l'ange, enfin, on va venir à cette expression, écrit à l'ange de l'Église qui est à Smyrne, etc. Et on dit, voilà, là, il s'agit des lettres. En réalité, le livre, dans sa totalité, est une lettre. Et chacune des églises, des sept églises mentionnées, ont reçu la totalité du livre. Et les messages des chapitres 2 et 3 ne peuvent être compris adéquatement que si on les situe à l'intérieur donc, du livre dans son ensemble, en particulier du chapitre 1, qui les éclaire et les prépare, des chapitres 4, 5 et les chapitres qui leur sont consécutifs et qui en dépendent, qui dans un certain sens ne peuvent pas être compris sans les chapitres 2 et 3, et même les derniers chapitres. On va voir dans un instant que les promesses qui sont faites aux vainqueurs de ces églises ne sont présentées de façon explicite et complète, ou en tout cas plus complète, qu'à la fin du livre, dans les chapitres 21 et 22. Donc voilà les trois caractéristiques fondamentales. Jean, cependant, n'a pas écrit trois textes. Il n'a pas écrit une apocalypse, une prophétie et une lettre. Il a composé un seul texte que l'Apocalypse lui-même appelle un livre. Et ce livre n'est pas la simple transcription de ce qu'il a vu. Il faut donc, ce n'est pas parce qu'il y a des symboles, des figures, des images, des visions, que nous sommes appelés, ou même autorisés, à reproduire ces visions-là. En fait, nous ne recevons pas des visions, nous recevrons l'interprétation des visions. Sinon, ce que Jean aurait fait, c'est faire un ensemble de dessins. S'il avait voulu simplement communiquer les visions qu'il a reçues, eh bien, il aurait fait un ensemble de dessins ou de peintures et il les aurait communiquées aux différentes congrégations. Mais il a écrit un livre où il explique et il explicite les différentes visions avec des paroles. Ce ne sont pas simplement des visions qu'il a reçues, ce sont aussi des explications, soit par des anges, soit par le Seigneur lui-même, soit par l'Esprit de Dieu, qui l'anime comme il anime toute personne qui a rédigé la parole de Dieu. Voilà donc un petit peu pour l'introduction. Et ce que Jean fait, c'est au chapitre 1, en gros, nous présenter cette figure majestueuse, puissante, du Fils de l'homme. Et si vous vous rappelez dans la lecture que vous en avez faite, il ne se contente pas simplement de citer Daniel 7, puisque c'est Daniel 7 qui est à la source de ce passage. Si vous voulez, il en montre l'accomplissement en Jésus, et ce qu'il y a de très très frappant, enfin de frappant presque à première lecture, c'est qu'il met ensemble la description à la fois du Fils de l'homme dans Daniel 7 et de l'Ancien des Jours. Et en plus, il apporte d'autres passages, en particulier du livre de l'Exode, pour montrer qu'il n'est pas seulement le Fils de l'homme sauveur et en même temps celui qui est Dieu, donc une figure vraiment divine, sans aucun problème, mais c'est une figure sacerdotale. La robe en particulier qui lui descend jusqu'au pied, c'est la robe que les prêtres portaient dans l'Ancien Testament. Et c'est une figure de jugement. La parole qui sort de sa bouche, enfin, il nous est présenté comme l'épée qui sort de sa bouche. Alors imaginez si on devait s'arrêter à la vision, hein, une épée acérée à double tranchant qui sort de sa bouche, c'est assez à la fois apeurant, mais aussi une figure difficile à gérer. Mais c'est le symbole, évidemment, de sa parole puissante. L'Épître aux Hébreux nous en parle. Le texte est cité ailleurs dans le Nouveau Testament et qui pénètre le plus profondément possible dans l'être humain. L'Épître aux Hébreux parle jusqu'à séparer ce qu'il y a de plus intime dans l'être humain. Ça, c'est la parole du Seigneur, donc, devant laquelle on ne peut pas se cacher. Et c'est sa fonction de juge qui est ici explicitée. C'est comme ça qu'il sera présenté, du reste, au chapitre 19, quand il vient pour juger les nations incroyantes et qui ont refusé de se repentir. Et immédiatement après cette présentation, nous avons les chapitres 2 et 3 qui sont les messages adressés aux sept églises, puisque la lettre est une lettre. Probablement la manière dont ça a été fait. Je vais sortir un texte parce que je dois faire une lecture avant d'aller plus loin. Mais probablement la manière dont cela a été fait, c'est que Jean a rédigé un livre. Les livres étaient très, très chers, dispendieux à l'époque. Et il l'a envoyé à l'église d'Éphèse, la première église que le messager rencontre. Le texte est recopié par les Éphésiens et puis il est envoyé à la deuxième église, l'église de Smyrne, qui le recopie et qui l'envoie à la troisième église, etc. Ce phénomène est connu incidemment par d'autres indications du Nouveau Testament. Vous vous rappelez, dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul dit, après avoir lu cette lettre, vous la communiquez aux Laodiciens, une église toute proche, et vous demandez aux Laodiciens de vous communiquer leur lettre. Et donc ce phénomène de copier des lettres était tout à fait courant, et c'est comme ça que la parole de Dieu s'est répandue. Ceux qui ont écrit l'Évangile, ils ont écrit un exemplaire et cet exemplaire a été copié, recopié par d'autres, comme donc les différentes lettres des apôtres et de l'Apocalypse. Si vous avez une... Si vous voulez une Bible, on peut lire ces deux chapitres des différents messages. Peut-être juste avant, je lirai à partir du verset 19, puisque c'est le commandement du Seigneur d'écrire à Jean. Donc après lui avoir dit « Je suis le vivant, je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles », il dit « Écris donc les choses que tu as vues, celles présentes et celles qui doivent arriver après cela. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers, le voici, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. L'ange de l'église d'Éphèse écrit « Voici ce que dit celui qui porte les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais ta conduite, ta peine et ta persévérance, et je sais que tu ne peux tolérer ceux qui font le mal. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas découragé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. « Rappelle-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Reviens à ta conduite première, à tes premières œuvres littéralement. Sinon, je viens à toi et je changerai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. Cependant, tu as ceci pour toi ou en ta faveur, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes que je déteste moi-même. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Notez la promesse du Seigneur de venir. Sinon, je viens à toi et je changerai ton chandelier de sa place, au verset 5. Et notez la promesse conditionnelle au vainqueur, conditionnelle, inconditionnelle. Elle est conditionnelle parce que c'est seulement au vainqueur, mais elle est inconditionnelle au sens où c'est à tous les vainqueurs. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu ne sera expliqué que dans les deux derniers chapitres. C'est là que nous apprendrons, si vous voulez, la réalité de cet arbre et ce qu'est le paradis de Dieu. Deuxième église, à l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui fut mort et qui revint à la vie, je connais ta tribulation ou tes épreuves. Et ta pauvreté, pourtant tu es riche, et les diffamations de ceux qui se disent juifs, alors qu'ils ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. Ne crains pas les souffrances que vous êtes sur le point de subir. Voici, le diable va jeter certains parmi vous en prison pour que vous soyez tentés ou éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort ou de la deuxième mort. Ici, dans l'église à Smyrne, il n'y a aucun reproche contrairement à Éphèse. Et il n'y a pas de promesse de la venue de Jésus. C'est presque une exception. Mais il y a la promesse à ces croyants de Smyrne d'être dans la compagnie, dans la présence du Seigneur, d'être en vie avec lui. Troisième église, l'église de Pergame, écrit donc à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui a l'épée acérée à double tranchant, je sais où tu demeures, là où est le trône de Satan. » Mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelques griefs. Tu as chez toi certains qui tiennent l'enseignement de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux enfants d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se prostituent. Ainsi chez toi aussi, il en est qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viens bientôt à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Et concernant l'église de Pergame, merci. Les mêmes remarques donc peuvent se faire. Là, il y a des reproches qui sont faits parallèlement à l'église d'Éphèse, et il y a des promesses qui ne peuvent se comprendre que si on lit les derniers chapitres. Donc après, il y a les trois ou quatre églises que je n'ai pas lues. Je ne sais pas si j'en ai lu trois ou quatre. Donc je vais, si vous voulez, je vais arrêter la lecture parce qu'on va faire quelques références à ces églises. Je voudrais, si on peut le projeter la carte. Elle est à la toute dernière page des différentes églises pour qu'on puisse les voir un petit peu dans leur emplacement. Si vous regardez les différentes, si on peut monter un petit peu la carte. Voilà, si vous, vous avez l'île de Patmos où Jean est incarcéré, puis vous avez les sept églises, vous voyez qu'elles font une sorte d'arc de cercle en partant d'Éphèse et en passant par Smyrne, Pergame, Thyatire, en redescend, Sardes, Philadelphie, Laodicée, c'est vraiment un arc de cercle qui est suivi par l'aposte de l'époque, ou l'équivalent de l'aposte de l'époque. Et c'est probablement la raison pour laquelle elles sont mentionnées dans cet ordre. Alors, si on avait une carte un peu plus compliquée, on verrait qu'il y a d'autres églises, en particulier Colosse, qui n'est pas très loin de Laodicée, Hierapolis, une autre église qui n'est pas très loin non plus, plus au nord de Laodicée, il y a Milet. Donc, l'apôtre Jean le prophète, s'il est identique à l'apôtre, donc l'apôtre Jean, a choisi délibérément d'écrire à cette église pour mettre en évidence le chiffre 7 et le caractère symbolique du chiffre 7. J'ai fait plusieurs références un petit peu au symbole dans l'Apocalypse. J'en ai mentionné quelques-uns, mais c'est un livre qui est vraiment rempli de symboles. Si vous lisez des commentaires, si vous lisez le livre de Richard Bauckham que j'ai mentionné hier, La théologie de l'Apocalypse, vous verrez que les symboles sont en très grand nombre. Des symboles de type visuel, comme des animaux par exemple. Enfin, on a pas simplement le lion et l'agneau, mais aussi le grand dragon qui est en même temps un serpent. On a les bêtes du chapitre 13. On a la grande prostituée qui n'est pas une bête, mais qui est assise sur une bête. Mais on a des réalités comme la montagne, ou parfois Jérusalem, parfois des villes ou des pays anciens. On parle de Sodome, de l'Égypte, de la grande ville, de la ville où le Seigneur fut crucifié. Mais ce sont surtout les nombres qui sont utilisés. Le chiffre 7 revient très très souvent. De mémoire, vous vous rappelez qu'il y a donc les sept églises, il y a les sept sceaux qui retiennent le livre fermé, il y a les sept trompettes que les sept anges font retentir. Après, vous avez les sept coupes que les sept anges font déverser sur la terre. Il y a les sept têtes, les dix cornes. Il y a les sept esprits, qui m'ont mentionné quatre fois. Et puis, ce qu'il y a, si je peux trouver la réponse très très rapidement, c'est ce qui n'est pas explicite. Donc, il y a les sept lampes de feu, les sept cornes de l'agneau, les sept yeux de l'agneau. Le dragon a sept têtes. Il porte sept têtes sur son sept diadèmes, pardon, sur sa tête. La bête qui provient de la mer a sept têtes. Il y a les sept fléaux. La bête se tient sur sept collines. Et il y a sept rois. Là, ce sont le chiffre 7 est explicitement donné. Et il est impossible de le prendre littéralement. Il n'y a aucune possibilité, si vous voulez, que ce soit simplement littéral. Nous avons ici la fonction symbolique du chiffre 7 qui parle de perfection, de ce qui est total, de ce qui est complet. Et ça marche à chaque fois, sans aucune exception, quand nous prenons le chiffre avec cette valeur symbolique. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'il y a, la valeur 7, si vous voulez, est utilisée sans que le chiffre soit explicitement mentionné. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Les sept églises d'Asie mineure ne sont pas mentionnées. Si vous voulez, elles sont mentionnées, le chiffre 7 n'apparaît pas, mais elles sont bien 7 quand on les compte. Au chapitre 5, à la fin du chapitre, l'agneau reçoit l'expression de l'adoration des anges et de la création. Si vous comptez l'expression de cette adoration, elle est septuple. Il y a sept expressions qui la décrivent: la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. au chapitre 7, verset 12, c'est Dieu qui reçoit une septuple adoration. Donc les anges, avec la totalité des rachetés, adorent Dieu entre un amen initial et un amen final, et ils disent la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force. Soit à Dieu au siècle des siècles. À nouveau, une septuple expression. Quand le sixième sceau, je ne veux pas trop présumer un petit peu d'une familiarité avec l'Apocalypse, si vous ne venez pas juste de le lire, mais vous savez donc que les sceaux sont ouverts l'un après l'autre, et c'est au sixième sceau qu'il y a l'expression du jugement final, où là, les hommes... Dieu fait venir son courroux sur les éléments de la création et sur les hommes, et les hommes se cachent ou veulent se cacher dans les grottes pour échapper à la colère de Dieu et de l'agneau. Si on compte les groupes d'humains dans ce verset, ils sont au nombre de sept. Les rois de la terre, les grands, il y a des synonymes, on aurait pu se passer, si on voulait simplement désigner littéralement des groupes en leur totalité, on n'aurait pas eu besoin de sept. Donc il y a les rois de la terre, il y a les grands, il y a les chefs militaires, il y a les riches, les puissants, les esclaves et les hommes libres. Et si vous les comptez, vous allez en trouver sept. Le livre contient sept bénédictions, tellement bien choisies que la première est au début du livre et la dernière est à la fin du livre. À nouveau, ce n'est pas le hasard, je veux dire, ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça. Ces choses ne se vérifient pour aucun autre livre du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, il a fallu que l'auteur sciemment rédige de cette façon. Nous sommes moins sensibles aux symboles aujourd'hui. On aurait même tendance à dire, si c'est symbolique, ce n'est pas significatif. Si c'est symbolique, ce n'est pas important. Je vous assure que pour une culture ancienne, c'est entièrement l'inverse. Ce qui est symbolique a une signification accrue et il faut lui prêter une attention particulière pour en saisir la signification et les applications. Donc les bénédictions, la première apparaît au chapitre 1, verset 3. Nous l'avons lu hier, et la dernière apparaît au chapitre 22, verset 14. Le Seigneur dit « Je viens », donc on va parler de ce sujet un peu plus en détail. On parle du retour de Jésus. Ça, c'est l'expression consacrée, l'expression la plus courante parmi nous. Le Nouveau Testament n'utilise jamais l'expression « le retour de Jésus-Christ ». Il parle de la venue de Jésus-Christ. Et quand le Seigneur lui-même donc, parle de ce que nous appelons son retour, ce n'est pas faux de parler de son retour, hein, donc il n'y a pas de faute. Mais l'accent, si vous voulez, est différent, parce que quand on parle de la venue de quelqu'un, l'accent est sur sa présence. Quand on parle du retour, c'est beaucoup plus son départ, il est loin, et il va revenir par la suite. Et donc il me semble que on devrait faire attention à nouveau au langage biblique pour l'honorer. Donc le Seigneur Jésus promet de venir sept fois, réparti de façon absolument choisie, sans aucun doute, puisque trois de ses affirmations, trois de ses promesses, parfois avec un élément de menace, apparaissent dans les chapitres 2 et 3. Et trois de ces promesses apparaissent à la toute fin, donc au chapitre 22, au milieu de quelques versets, vous avez les trois promesses du Seigneur Jésus qui se trouvent au chapitre 22, verset 7, 22, 12 et 22, 20. Donc à l'intérieur de quelques versets, vous avez les trois dernières promesse, et la septième est au beau milieu, elle est associée en fait à l'expression de la venue et du jugement de Dieu après que les anges aient déversé leur coupe sur la création, donc au chapitre 16 et au verset 16. Non, au verset 15, pardon. Donc les trois dernières références, au chapitre 22, verset 7, verset 12 et verset 20. J'espère que j'ai bien lu les références tout à l'heure. Il y a plein d'autres choses. Quand Jean désigne l'ensemble de la création, il utilise tout le temps une formule quadruple. C'est tout à fait normal. On parlait dans les temps anciens des quatre coins de la terre, des quatre vents, des quatre directions. Et donc, quand on parle de l'ensemble de la création, il semblait tout à fait normal de la décrire de façon quadruple. Et il fait des changements. Hein. C'est pas toujours les mêmes termes qu'il utilise, mais il dit des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Quatre. Et là, et vous avez sept fois cette expression qui apparaît dans l'Apocalypse. Si vous voulez les références, si vous voulez, je peux vous les donner. Voilà. Et puis vous avez, je saute sur d'autres éléments. Ce que je voudrais communiquer, c'est vraiment cet attachement par Jean à des symboles, et que si nous voulons comprendre l'Apocalypse, enfin, il y a certains qui disent, enfin, quand je faisais mes études, j'espère que ce n'est plus le cas aujourd'hui, on nous disait il faut interpréter de façon littérale, sauf si c'est impossible. Mais c'est vraiment une règle qui ne tient pas du tout, et c'est une règle qui n'a aucun fondement. Si quelqu'un choisit de parler dans un langage symbolique, il faut presque renverser la règle sur sa tête et dire symbolique, sauf si on ne peut pas. Mais il ne faut pas réagir de façon extrême. Il faut être attentif à l'usage de l'auteur, et s'il utilise des symboles, il faut interpréter les symboles pour ce qu'ils sont. Qui communique des vérités, qui communique des réalités ? Encore une fois, le soupçon que nous avons à l'occasion, c'est si on dit si c'est symbolique, c'est peut-être pas vrai, ou c'est pas important, ou c'est secondaire, ou on peut prendre et laisser, mais ça n'est pas le cas. La communication de Jean est une communication ferme, claire, elle est assortie d'une bénédiction pour tous ceux qui l'écoutent et la mettent en pratique. Et donc il faut bien passer par une compréhension, si vous voulez, de cela qui est écouté, si on veut le mettre adéquatement en pratique. Alors, l'expression « les sept esprits de Dieu », donc certains ont essayé de mettre en doute que par cette expression, Jean fait référence au Saint-Esprit, mais ça ne tient pas, il y a des études très très solides qui ont été faites, et donc aujourd'hui, une écrasante majorité, si vous voulez, dans les commentaires et dans ce qui est écrit sur l'Apocalypse, sont tout à fait convaincus que c'est une désignation du Saint-Esprit. Pourquoi sept ? Pour deux raisons fondamentales. La première, c'est un usage de l'Ancien Testament. Je vais y revenir dans un instant. Et l'autre, c'est une manière de parler de la plénitude du Saint-Esprit dans ses ministères, dans l'expression de son action dans l'Église. Le Saint-Esprit n'est pas tellement considéré dans son rapport à Dieu que dans les fonctions qu'il exerce par rapport aux Églises ou à l'Église. Et comme, par exemple, Jean a représenté l'Église universelle sous la forme des sept Églises, il était tout à fait normal que le Saint-Esprit soit aussi représenté sous la forme des sept esprits, manière de parler de sa perfection, encore une fois, de son caractère complet et du caractère complet de sa mission, de son ministère. Il est possible aussi que ce qui a joué, c'est la description de l'esprit dans Ésaïe chapitre 11. Si vous vous rappelez, quand le Messie, le Christ, est annoncé sous la forme de l'enfant qui doit naître, le texte nous parle de l'esprit qui l'accompagne. En hébreu, il est décrit par six expressions, donc c'est Ésaïe chapitre 11 à partir du verset 1. Dans la traduction grecque, il y a sept expressions ou sept qualités qui sont associées à l'esprit du Messie. Et il est possible que cela ait aussi joué dans le cas de Jean. On ne fait pas, si vous voulez, de cette, puisqu'il s'agit de la traduction grecque et pas du texte hébreu, donc on ne fait pas de cette référence une référence obligatoire, mais c'est tout à fait possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'expression « les sept esprits » soit utilisée quatre fois. Et elle est utilisée deux fois en relation avec Dieu et deux fois en relation avec le Messie, avec le Christ. C'est peut-être, vous me direz, là tu trouves des symboles et des usages symboliques partout, mais dans un texte qui est travaillé avec tant de soin, tant d'attention, ça n'est pas aléatoire, ça n'est pas le fruit du hasard. Je pense que c'est une manière pour Jean de parler, encore une fois, non seulement d'un ministère du Saint-Esprit qui est complet, qui est parfait, qui se manifeste dans sa plénitude, mais c'est une manière de dire qu'il touche à la nouvelle création, à l'Église, dans tous ses aspects. On peut, si vous voulez, continuer et noter que l'expression « les sept Églises » apparaît elle aussi quatre fois. Je vais terminer avec... avec un petit bijou. L'Apocalypse est la seule à appeler Jésus agneau en utilisant le mot arnion. Jean l'appelle aussi l'agneau de Dieu dans l'Évangile, mais il utilise un mot différent. Pour le mot exact que Jean utilise, donc il est le seul à le faire. Il l'utilise 28 fois pour désigner Jésus de cette manière, c'est-à-dire 7 fois 4. C'est impossible que ce soit le fruit du hasard. C'est la perfection du 7 multipliée par 4, parce que l'agneau, ça n'est pas le Seigneur en lui-même, mais c'est le Seigneur au service de l'Église. C'est le Seigneur sauvant l'Église. Et donc, on a le nombre 4 qui est utilisé de cette manière. Donc voilà, il faudrait laisser d'autres éléments. Le titre, le Christ, est utilisé 7 fois. Le nom Jésus, le Christ n'est pas le nom, hein, le Christ, c'est la traduction grecque de Messie, donc c'est son titre. Il est utilisé, comme je dis, 7 fois, de façon très intéressante, et c'est pas possible que ce soit un hasard. Le mot prophétie est utilisé 7 fois. Encore une fois, c'est pas étonnant. Le livre est une prophétie, et il veut montrer que c'est la prophétie dans son caractère excellent final. Voilà. Je pense que j'ai donné l'essentiel, et si vous n'êtes pas convaincu avec cela, les autres exemples ne changeront pas. Mais je vous encourage, en ayant fait, si vous voulez cela, je vous encourage énormément à étudier l'Apocalypse de cette manière. Il y a des symboles qui sont évidents parce qu'on les retrouve dans l'Ancien Testament, mais et même à l'extérieur de la culture, juive et biblique. 7, 3, 12, 1000... 12 est impeccable, hein. On le retrouve à plusieurs endroits, et on le retrouve à la toute fin, la nouvelle cité qui a 12 portes et qui a 12 murailles, et là ils sont explicitement rattachés à la fois aux 12 tribus et aux 12 apôtres, une belle expression de l'unité du peuple de Dieu unifié dans l'éternité à venir. D'autres symboles sont beaucoup plus explicitement rattachés à des passages bibliques. Et donc, si on ne lit pas les passages bibliques qui sont derrière, on ne peut pas les comprendre. Mais en général, même si l'impression que j'ai donnée en énumérant ces symboles et que c'est assez et que la situation est assez complexe. En fait, on peut détecter la signification, je pense, relativement facilement si on fait l'effort de lecture. Voilà, je vais venir au sujet très très précis de la venue du Seigneur. Et comme je vous dis, je dois faire un résumé des coupures, mais je voudrais vraiment d'abord partager un petit peu ce sujet avec vous, parce que je crois qu'il est très très important pour nous. La plupart des croyants évangéliques considèrent l'avenir immédiat en attendant l'enlèvement de l'Église. Hein, dans beaucoup d'Églises, c'est ça ce qui est au centre. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend que l'Église soit enlevée. Alors c'est un peu triste comme situation. Un peu triste parce que explicitement, l'enlèvement de l'Église est mentionné une fois. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, il est mentionné dans l'Écriture et donc c'est important. Le retour du Seigneur ou sa venue est décrit, évoqué, enseigné dans des dizaines de passages, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, en passant par un grand nombre de livres dans tous les quatre évangiles, le livre des Actes, l'épître aux Romains, la première aux Corinthiens. Donc ça, c'est les choses, si vous voulez, qui sautent immédiatement à l'esprit, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Thessaloniciens, 1 Jean, l'épître aux Hébreux. Donc tous ces livres parlent du retour de Jésus-Christ. Dans 1 Timothée, c'est 1 Timothée ou Tite, donc la référence n'est pas claire, mais l'apôtre Paul parle de notre espérance. Quelle est notre espérance ? Eh bien, c'est le retour ou la venue de Jésus-Christ. Nous n'attendons pas d'abord d'être enlevés. Nous attendons notre Seigneur, nous attendons son retour pour qu'il règle le problème du mal et que notre salut soit mené à sa finalité, à son accomplissement final, pour que la rédemption du corps, comme l'apôtre Paul l'appelle, soit faite. L'enlèvement, c'est la modalité de la rencontre avec le Seigneur. Quand le Seigneur revient, ça c'est ce que l'apôtre décrit, et on est parti, si vous voulez, d'une description de la modalité de la rencontre avec le Seigneur pour en faire l'essentiel de notre eschatologie future. Le Seigneur reviendra du ciel, comme les anges l'ont dit aux apôtres dans Acte 1. Et qu'est-ce que l'Église fait ? Qu'est-ce que les croyants font ? Ceux qui sont morts ressusciteront, dit l'apôtre Paul, et ceux qui sont vivants se joindront à eux, et nous irons tous à la rencontre de notre Seigneur pour l'accueillir, et nous serons toujours avec lui. Même dans ce passage, l'accent n'est pas sur l'enlèvement. L'accent est la rencontre de notre Seigneur, rencontre qui ne peut se faire que s'il revient, hein, que s'il est présent en personne, pas simplement dans son esprit, mais de façon glorifiée, puissante et de façon définitive. Et donc, vraiment, j'aimerais que nous apprenions à mettre l'accent sur cela et que l'objet de notre attente soit la venue de notre Seigneur et Sauveur. Et que chaque matin, quand nous nous levons, si vous voulez, nos aspirations se dirigent vers cela. J'étais très, très embêté récemment parce qu'un des leaders évangéliques a écrit à plusieurs en disant « L'enlèvement de l'Église aura lieu durant le mois de septembre ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça ici, oui ? Ben voilà. Et quelqu'un m'a dit, en fait, il y a une autre prédiction qui a suivi plus récemment, c'est octobre. voilà, on donne une image assez lamentable un petit peu à ceux qui nous observent de l'extérieur. Donc, il faut rediriger un petit peu le regard et nous attacher beaucoup plus et beaucoup plus directement à l'enseignement des Écritures et dire, nous attendons la venue de notre Seigneur. Et dans l'Apocalypse, il y a une très très belle expression de cette venue, puisque c'est le Seigneur lui-même qui le promet. Dans les évangiles ou dans Actes ou dans l'Épître aux Romains, etc., ce sont les apôtres qui le disent. Et bien sûr, ils expriment la parole de Dieu, et c'est une parole ferme et certaine à laquelle nous nous attachons entièrement. Mais quand nous avons les paroles du Seigneur lui-même, il y a cette dimension personnelle, cette dimension tout à fait affective qui s'ajoute. C'est le Seigneur qui le promet. D'accord ? Et donc il le fait 7 fois dans l'Apocalypse. Il dit « Je viens ». Je voulais présenter un petit peu plus les églises, mais je veux pas vous abuser de votre patience et vous retenir au-delà d'un temps raisonnable. Mais si je peux juste présenter rapidement les tableaux, peut-être les projeter, et je passerai. Ah, on n'arrive pas à lire, hein ? Non, d'accord. Bon, écoutez, on va oublier les détails. Ce que ces tableaux comportent, c'est simplement l'idée que elles ont une structure très très proche, avec une adresse suivie de la présentation du Christ. L'adresse est à l'ange de l'Église qui est à. Essayez de comprendre, si vous voulez, ces paroles comme étant une adresse à l'Église elle-même. C'est-à-dire que Jésus n'est pas en train de s'adresser à un ange quelque part, il est en train de s'adresser à l'Église. Et en fait, dans le message qui suit, il n'y a pas un mot qui concerne un ange qui serait différent de l'Église. C'est l'Église qui est concernée. Je pense, mais là, je ne veux pas être dogmatique, je pense que l'expression ange ici, qui vient du chapitre 1, désigne l'Église elle-même. Je pense que ça vient de Daniel et d'autres textes de l'Ancien Testament, où il y a des anges représentatifs. Et c'est un petit peu ce que Jean utilise. Au chapitre 1, il dit... le Seigneur a dans sa main droite les 7 étoiles. Et ces 7 étoiles représentent les 7 anges de l'Église. Je pense que, si vous voulez, cette représentation doit se comprendre de la manière suivante. Ce sont les 7 églises en sécurité dans la main de Dieu. Et le Seigneur nous est présenté au milieu des chandeliers, marchant entre les chandeliers. Et on nous dit les chandeliers sont les églises. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut comprendre les chandeliers comme représentant les églises dans leur caractère concret, là où elles doivent affronter le mal et le malin, où elles sont tentées, où elles sont éprouvées. Donc nous avons, si vous voulez, la double représentation de l'Église, dans la main du Seigneur et dans la réalité. Dans la main du Seigneur, elle est en sécurité. Dans la réalité, elle peut être en butte à des tentations et à des épreuves. Et c'est pour ça qu'on a cette double, si vous voulez, adresse écrite à l'ange de l'Église qui est à, mais tout le message s'adresse à l'Église concrète elle-même et pas du tout à un être angélique. Après, vous avez la présentation du Christ, et cette présentation est reprise du chapitre 1, l'auteur, Jean, reprend des éléments de cette description-là. Après, il y a un jugement positif et un jugement négatif, mais avec des petites différences. Il y a une église pour laquelle il n'y a rien de positif à dire. D'accord ? Le Seigneur n'a rien de positif à dire sur une telle église. Évidemment, encore, j'ouvre une parenthèse, je ferme tout de suite. Ne nous identifions pas seulement aux bonnes églises en disant ça c'est nous et puis les autres églises ça ne nous concerne pas. Les 7 messages sont pour toute l'église et nous devons nous examiner à chaque fois au regard de tous les messages. Il est tout à fait possible que même si nous sommes fidèles et si la parole de Dieu et l'esprit de Dieu sont au milieu de nous, que nous ayons à apprendre d'une église comme l'Odyssée pour laquelle le Seigneur ne dit rien de bon. D'accord ? Et je suis sûr qu'il y a des choses à apprendre de cette Église. Il y a deux églises pour lesquelles il n'y a pas de jugement négatif. Donc il n'y a que de bonnes choses qui sont dites pour ces églises, c'est Smyrne et Philadelphie. Alors je ne sais pas quelle est la situation ici, mais nous avons à Montréal une église de Smyrne et une église de Philadelphie, mais nous n'avons pas une église de Laodicée. Mais là aussi, n'est-ce pas, il est tout, bien sûr, on a à apprendre de ces églises, mais ne nous identifions pas exclusivement à elles. Ce qui vient par la suite, c'est un appel à la conversion, dans le cas des cinq églises. Le Seigneur leur demande de se convertir, de changer d'attitude, de comportement et de revenir à une relation fidèle et loyale à son égard. Dans deux cas, Philadelphie et Smyrne, il n'y a pas d'appel à la conversion puisque ces deux églises sont estimées être fidèles. Le Seigneur leur dit « persévérez, continuez, si vous voulez, dans le chemin qui est... sur lequel vous marchez actuellement. Il y a par la suite une interpellation vraiment sur le mot de Jésus. Là, c'est Jésus qui parle et on entend le Jésus des évangiles. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Une manière donc de nous responsabiliser tous, puisqu'elle nous met exactement devant le Seigneur qui nous interpelle. Et finalement, la promesse... final, comme je dis, une promesse à la fois conditionnelle et inconditionnelle. Je dis qu'elle est conditionnelle parce qu'elle s'adresse aux vainqueurs. Mais les vainqueurs pour l'Apocalypse sont tous les fidèles. D'accord ? Les vainqueurs ne constituent pas une classe à part de l'Église ou des chrétiens. Les vainqueurs ne sont pas une élite. Les vainqueurs sont tous ceux et celles qui demeurent fidèles au Seigneur. Et pour eux, il y a, si vous voulez, une description, si vous voulez l'appeler récompense, on peut, parce que l'Écriture utilise le mot récompense pour cela, mais il s'agit en fait d'un aspect de la vie éternelle. Il s'agit de la vie avec Dieu. Alors je vous en lis certains. C'est manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Recevoir la couronne de vie et être délivré de la seconde mort, participer à la manne cachée et avoir un nom nouveau, avoir un pouvoir sur les nations, avoir un vêtement blanc et un nom inscrit dans le livre de vie et qui ne sera jamais effacé, être une colonne dans le temple de Dieu, recevoir le nom de Dieu, de la Nouvelle Jérusalem et le nom nouveau du Seigneur, partager le repas avec le Seigneur en siégeant avec le Christ sur son trône, comme le Christ siège sur le trône de son Père. Ce sont des descriptions de la vie éternelle. Il n'y a rien qui sépare, si vous voulez, ceux et celles qui participent à cette vie. C'est exactement comme cela que les chapitres 21 et 22 décrivent ceux qui participent à la vie éternelle ou à la nouvelle vie. Voilà, donc si je peux résumer très très rapidement ces promesses et en tirer quelques conséquences. La première se trouve au chapitre 2, verset 5. C'est à l'église d'Éphèse qui a abandonné son premier amour. Son amour le premier, que celui qui tient les sept étoiles dans sa main et marche au milieu des sept chandeliers, donne un avertissement. Ce n'est pas simplement une promesse positive, encore qu'il y ait une dimension tout à fait positive. Le Christ dit à l'église d'Éphèse, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi ou convertis-toi, pratique tes premières œuvres ou reviens à ta conduite première, sinon je viens à toi. » Donc là, c'est la venue du Seigneur Jésus. « Et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » L'Église d'Éphèse a abandonné son premier amour. La compréhension populaire est que le Seigneur Jésus est en train d'appeler Éphèse à son premier amour chronologique, à l'amour qu'elle a eu au début de la vie de l'Église. Et il est à peu près certain que ce n'est pas le sens. L'amour premier qui est mentionné ici, c'est le premier en éminence. C'est le premier amour, par exemple, que l'on trouve dans le Shema Israël. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, auquel on ajoute le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur Jésus les conjoint ensemble dans les évangiles, en particulier la parabole du bon samaritain, est dite exactement pour illustrer le fait que ces deux commandements ne peuvent pas être séparés. On ne peut pas accomplir l'un sans l'autre. Je pense que le péché, si vous voulez, ou la faiblesse d'Éphèse a été de mettre un accent presque exclusif sur la pureté doctrinale. Le Seigneur n'a rien à lui reprocher sur ce point-là. Elle dénonce les faux enseignements, elle rejette les pratiques idolâtres, mais elle n'a plus cet amour, donc d'abord pour Dieu. Nous ne pouvons pas aimer notre prochain comme nous-mêmes si nous n'aimons pas Dieu de la manière absolue dont il est décrit dans l'Écriture. S'il n'est pas celui qui nous occupe premièrement et entièrement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc là, c'est vraiment du centre de ton existence et de toute ta force, de toutes les énergies qu'on peut mobiliser. De tout ton esprit, Luc dira, de toute ton intelligence. Il faut, encore une fois, avoir toute la créativité possible pour aimer et mettre en pratique notre amour pour Dieu. Et le deuxième commandement, ou la deuxième partie du commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les Éphésiens ont failli par rapport à cela, c'est-à-dire qu'ils ont tellement voulu se maintenir purs qu'ils ont oublié leur responsabilité vis-à-vis d'autres croyants et ils ont oublié leur responsabilité comme témoins à ceux qui les entouraient. Il est tout à fait possible que nous ayons des églises ou des groupes d'églises ou des groupements à l'intérieur d'églises comme cela aujourd'hui. On est préoccupé par la rectitude doctrinale. Et c'est une bonne chose. L'apôtre ne remet pas du tout ça en question. Il faut garder la pureté doctrinale. Mais si c'est au dépens d'une vie qui montre ou qui se montre par des sacrifices et un témoignage qui coûte, si on ne le fait pas, on a failli. Et en fait, l'amour lui-même refroidira et deviendra de plus en plus formel. Alors, Éphèse est appelé à revivre, la priorité du premier amour. Et sinon, le Seigneur l'avertit, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Ça n'est pas toute l'Église nécessairement qui sera visée, mais l'Église, comme Église, n'existera plus. Les croyants authentiques continueront de croître et de progresser, mais l'Église perdra le privilège de représenter la lumière. L'expression chandelier, c'est vraiment littéralement porte-lumière, c'est-à-dire c'est une lampe qui par elle-même n'éclaire rien, mais si on met de l'huile et on l'allume, elle devient donc l'occasion pour la lumière de se propager. Et ça, c'est une très belle image pour les églises locales. Mais nous ne pouvons maintenir, si vous voulez, cette place, cette position, que si nous gardons la pureté doctrinale et nous ne faillons pas par rapport au premier commandement, au premier amour. Donc là, c'est un avertissement. Le Seigneur Jésus lui dit, il paraît historiquement que l'Église d'Éphèse s'est ressaisie, puisqu'au début du IIe siècle, Ignace, un père de l'Église, parle très positivement de cette Église. Donc il est tout à fait possible qu'ayant reçu cette lettre, et pendant un certain nombre d'années, cette Église soit revenue vraiment à l'amour de Dieu et à son expression comme amour du prochain et comme vie de témoignage. Mais par la suite, l'Église a entièrement disparu. Donc elle n'a pas dû maintenir, si vous voulez, sa fidélité, et le jugement du Seigneur Jésus s'est prononcé. C'est une venue du Seigneur Jésus. Il n'est pas revenu en personne de façon glorieuse, mais il est venu et il a tenu, si vous voulez, sa promesse d'éliminer cette Église. Alors la deuxième expression « je viens » apparaît dans 2:16, et c'est à l'Église de Pergame. L'Église de Pergame. Certains des membres de cette Église sont tombés dans un comportement idolâtre et ils persistent dans ce comportement, dans ces œuvres-là. Le Seigneur qui leur parle nous est présenté comme celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Donc ici, c'est le Seigneur, si vous voulez, qui vient avec sa parole et le jugement judiciaire. La parole qui vient pour juger, le Seigneur est le juge eschatologique, mais il est présentement celui qui évalue les églises. Et dans ce cas, il lui dit, sinon je viens bientôt à toi, et je l'ai, vous voyez, il fait la distinction entre ceux qui sont fidèles dans l'église de Pergame et ceux qui ne le sont pas, et je l'ai combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est probablement, si vous voulez, il va les démasquer, les mettre à nu et les juger. L'église de Philadelphie, elle, ne reçoit aucun reproche de la part du Seigneur. Et c'est en tant que le saint, le véritable, celui qui détient la clé de David, au chapitre 3, verset 7, qu'il fait une promesse. L'église de Philadelphie se pense pauvre, pourtant elle est riche. Elle est l'objet de calomnies et de persécutions, et le Seigneur lui dit « Je suis avec toi ». Et dans ce verset 3, 7, il lui promet « je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. » Alors, l'Église n'a pas compris nécessairement que le Seigneur en personne reviendrait, et reviendrait bientôt, mais elle ne l'a pas exclu. C'est-à-dire, l'Église vit dans l'espérance de son retour. Et vraisemblablement, ce qui a été fait dans le cas de Philadelphie, c'est que le Seigneur a envoyé des protections spéciales et des bénédictions spéciales qui lui ont permis de continuer de le servir pendant un temps très, très long. Alors voilà, si vous voulez, ces trois premières expressions qui s'appliquent à chaque fois de façon un peu différente aux trois églises. Je vais laisser le détail. Peut-être concernant Pergame, un petit mot, puisque je le vois dans la note. Vous rappelez que Pergame se trouve là où le trône de Satan est. C'est une expression qui pourrait presque être terrifiante. Imaginez si on disait de votre ville, là où le trône de Satan se trouve. Et la chose est répétée. Pourtant, ce n'est pas là le problème de l'église de Pergame. Ce n'est pas que Satan se trouve là. Vraisemblablement, il fait référence au temple de l'empereur et peut-être à d'autres temples idolâtres où les gens littéralement adoraient le temple, l'empereur de Rome et d'autres divinités. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème n'est même pas que l'un des fidèles ait été mis à mort, parce que sa mise à mort fidèle, loyale, est une victoire. Elle montre exactement le genre de victoire que le Seigneur attend de nous. Le problème de Pergame, c'est sa compromission avec l'idolâtrie. C'est son manque de loyauté totale à l'égard du Seigneur. Et il l'appelle donc à se repentir et à revenir à une communion fidèle à lui, donc sans céder aux séductions de celui qui est le trompeur et le menteur. Et sinon, donc, il va venir, la venue du Seigneur et jugement et bénédiction en même temps pour ceux qui sont des croyants et qui n'ont pas succombé aux influences des idolâtres. Alors, je vais sauter sur une partie de l'enseignement que j'aurais aimé donner. Il y a trois autres promesses du Seigneur de sa venue, mais qui sont exprimées au futur, pas au présent, et que l'on retrouve, dans trois des autres lettres. Et comme je dis, je vais plutôt les laisser de côté parce que je voudrais finaliser ces sept promesses, si vous voulez, de la venue présente du Seigneur. Et pour cela, je voudrais lire les trois derniers versets, les trois dernières promesses qui apparaissent tout au chapitre 22, à quelques versets l'une de l'autre. 22, 7, voici, je viens bientôt. 22, 12, voici, je viens bientôt. Et au verset 22, 20, le Seigneur lui-même dit, il dit, celui qui atteste ces choses, le Seigneur qui, après que le livre a été rédigé dans sa totalité, dit, je rends témoignage à ce qui est écrit dans ce livre. Ces choses sont vraies. Et dans ce verset, il dit, oui, je viens bientôt. Et l'Esprit représentant l'Église avec Jean répond, amen, viens Seigneur Jésus. Ces trois expressions de sa venue, trois affirmations solennelles à la fin de la lettre, qui, prises ensemble, constituent une source incroyable de consolation pour nous. Nous ne sommes pas laissés orphelins. Le Seigneur Jésus n'est pas allé sur une autre planète. Il est à la portée de son Église, et son Église est à la portée de sa main. Il promet « Je viens bientôt ». On peut être troublé par le bientôt en disant « Mais il y a 20 siècles qui sont écoulés ». Et oui, mais la promesse est faite de nouveau à chaque Église, à chaque génération de croyants. Nous, l'Église de Philadelphie, de Smyrne et les autres églises représentantes, étaient invités à l'attendre pour bientôt, à vivre dans la proximité de sa venue, à se dire « le Seigneur peut venir exactement durant ma vie ». Évidemment, l'apôtre Paul avait exactement cette attitude. Il dit « nous qui serons restés vivants ». Et donc, pour ce qu'il concernait, il voulait vivre dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus. Et c'est à cela que nous sommes invités. Et la consolation extraordinaire que le Seigneur nous dit, c'est « je suis tout proche, je peux venir ». Et si vous passez par des difficultés, si vous passez même par les plus grandes épreuves et les plus grandes tentations, ne vous effrayez pas, je suis là. Pour vous en tirer, pour vous aider, pour que vous puissiez vous en sortir. La dernière référence, enfin je vais. L'Église répond comme il faut. Hein, l'Esprit et Jean, qui est fidèle, répond par un amen. La main du témoin fidèle à la promesse du Seigneur. Et il dit, oui, viens Seigneur Jésus. C'est la première prière croyante. Quand vous lisez Maranatha, cette prière enfin, qui nous est gardée dans l'araméen, dans la Bible, c'est quand les croyants parlaient encore l'araméen, avant que les textes ne soient écrits en grec. Donc les tout premiers croyants priaient, Seigneur, viens. Et c'est cette prière à laquelle nous sommes invités. Il y a des implications à cette réponse. Si on dit « oui, viens Seigneur Jésus », il y a des implications de témoignage, ce que l'Église d'Éphèse n'a pas fait, une implication de séparation de l'idolâtrie, ce que l'Église de Pergame n'a pas fait, une implication de persévérer dans la fidélité au Seigneur malgré la persécution et les dénuements, ce que l'Église de Philadelphie a fait, le refus, même quand certains qui se disent croyants, le refus de céder à la compromission et la détermination de marcher dans la sainteté et la fidélité, et finalement, la joyeuse réponse à la promesse du Seigneur, il vient bientôt, et on lui dit, oui, viens Seigneur, je t'attends. Au milieu du chapitre, et j'arrive à sa fin, quelque chose de vraiment d'exceptionnel. Au beau milieu, donc, chapitre 16, les versets 13, 14 et suivants, nous lisons, c'est la dernière manifestation du dragon et des bêtes. On parle de la gueule, donc, du dragon, de la bête, du faux prophète. Je vis surgir trois esprits impurs comme des grenouilles. Et de fait, ce sont des esprits de démons, des faiseurs de prodiges qui s'en vont rassembler les rois du monde pour la guerre, pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et c'est ici qu'intervient la promesse centrale du Seigneur Jésus pour contrer la préparation des rois de la terre en vue du grand combat, de la grande bataille. Il dit « Je viens ». Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ce verset est unique pour une autre raison, parce que non seulement il cumule l'affirmation, de la venue soudaine et imprévue du Seigneur, à l'une des bénédictions de l'Apocalypse, l'une des sept bénédictions de l'Apocalypse, puisque justement est béni, nous dit le texte, celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne le voit pas. C'est l'enseignement du Jésus historique qui a dit je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur, ça veut dire je viens à l'imprévu. Vous ne pouvez pas calculer mon retour. Si nous tombons dans le calcul du retour de Jésus-Christ, nous ne sommes plus dans la position de disciples. Les disciples ont hâte que le Seigneur revienne. Ils prient pour son retour. Ils l'espèrent et ils vivent constamment pour ce retour. Ils ne calculent pas. On entre dans une logique et une dynamique complètement différente si l'on calcule. Et c'est pour ça que le Seigneur dit « Je viens de façon imprévue. Il n'y aura personne qui saura calculer, prévoir, si vous voulez, le moment de mon retour. » Et si nous sommes des disciples fidèles, nous ne nous intéressons pas à le calculer. Nous voulons vivre toujours prêts, comme le verset le dit ici, pas nus, en vivant dans la honte, mais en gardant les vêtements de sainteté, de justice, les vêtements qui nous caractérisent comme des croyants et des croyantes. Et à ce moment-là, le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment et nous serons là pour l'accueillir. Alors que le Seigneur nous encourage par ses paroles, s'il y a des éléments qui ne sont pas très clairs, on pourrait prendre demain, on me dit, un temps pour des questions. On pourrait aussi en parler à la fin de la session, mais je trouve que vous avez été très très patient hier et aussi aujourd'hui. Et donc je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse richement.